الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، ما زلنا نقرأ يوم الاثنين شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ الدكتور سليمان ابن عبد الله القصير حفظه الله جل جلاله. وما زلنا في كتاب البيوع، ما زلنا في كتاب البيوع. أي نعم، وذكرنا قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. Donc nous sommes toujours sur le chapitre de la transaction de la vente. Et yani, on avait évoqué la parole de l'auteur rahimahullahu ta'ala qui a dit, et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. On avait également rapporté le hadith dans une autre version dans lequel il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui trompe n'est pas des miens. Taïeb. فذكرنا صورا من صور البيع الذي فيه ربا وحيلة. On avait évoqué donc certaines catégories de transactions dans lesquelles il y a des intérêts ou des ruses engendrant un préjudice pour l'un ou les contractants du contrat. طيب ومنها مثل الربا الصريح أتحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. طيب، فهذا هو ربا النسيئة وربا الفضل وربا القرض. أي نعم، فهو بيع العين بثمن زائد لنسيئة ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل ليقضي دينه. وصورة بيع العينة كما ذكر المؤلف أن يبيع الإنسان سلعة بمئة ريال إلى أجل، أي مدة معينة كشهر أو سنة ونحوهما، ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا كي يشتريها بخمسين ريال. بهذا يتضح أن البيع صوريا وأن الحيلة ظاهرة. طيب، donc on avait évoqué la première forme de ruse dans la vente et qui est interdite bien sûr, celle qu'a évoqué l'auteur rahimahullah ta'ala. Donc par exemple le fait que la personne vendent une marchandise à 100 euros elle vend une marchandise à 100 euros. Taïeb. Et elle lui dit, Yani, tu me paieras plus tard. Il a ajal. Donc le paiement est différé. Tu me paieras, mathalan, dans un mois. Ou dans une année. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il va racheter à son acheteur, à son client, il va lui racheter, mais d'un prix inférieur. Il va lui acheter, mais d'un prix inférieur. Il va lui racheter, par exemple, à 50 euros. Hein? Il va acheter ce qu'il lui a vendu à 50 euros. Donc il va lui acheter, il va lui donner 50 euros. Il va récupérer donc son bien. Mais du coup, la personne lui devra encore les 100 euros qu'elle lui devait à la base. Donc là, c'est comme si elle avait échangé un billet de 100 euros contre un billet de 50 euros au final. Donc la vente, elle est fictive en fait. La vente, elle est fictive. Elle a juste été faite pour gagner combien? 50 euros en plus. Taïeb, pour gagner, yani, combien? Donc il lui a vendu 100 euros, puis il lui a racheté à 50 euros. Donc au final, il va gagner 50 euros. C'est comme s'il avait échangé un billet de 100 contre un billet de 50. Il lui donne 50 et lui, il lui donne 100. Et lui, sa marchandise, il l'a toujours sur lui. Il a juste, hein, on va dire entre guillemets, donné pendant un certain temps, mais il a récupéré sa marchandise, donc il n'a rien perdu. Voyez. ثم الصورة الثانية التحيل على قلب الدين مثل ذلك أن يكون الإنسان عند إنسان آخر مثلا مبلغ 10,000 ريال فيقول له الدائن أبيعك سلعة أخرى ثم تبيعها وتوفيني فيعطيه سلعة 20,000 ريال فيبيعها 10,000 ويقضيه 10 وينقلب الدين إلى 20,000 فهذه حيلة محرمة وإضرار بالناس وتوسعة لدائرة الدين. La deuxième forme de ruse interdite, c'est par rapport à la dette. Par exemple, une personne, elle a prêté de l'argent, elle a prêté de l'argent à quelqu'un d'autre. Elle lui a prêté, par exemple, 10 000 euros. 10 000 euros. Arrive le jour où la personne doit la rembourser. Mais ce jour-là, la personne n'a pas de quoi lui rembourser. Elle n'a pas l'argent. Elle n'a pas les 10 000 euros. Donc le créancier, qu'on appelle Ad-Da'in en arabe, Ad-Da'in, c'est le créancier, celui qui a prêté l'argent. Il lui dit, tu sais quoi, tu n'as pas l'argent? Eh bien, je vais te vendre une marchandise. Je vais te vendre une marchandise, puis toi, donc tu me l'achètes à un prix, tu la revends et tu me rembourseras avec ce que tu as gagné sur la marchandise. Donc il va lui donner par exemple une marchandise, il va lui vendre à 20 000 euros. Il lui doit déjà 10 000 euros. Il lui vend la marchandise à 20 000 euros. Donc la personne par exemple elle va l'acheter et elle va vendre cette marchandise-là à 10 000 euros pour pouvoir la rembourser. Donc elle va lui rembourser ces 10 000 euros. Mais elle lui devra encore les 20 000 euros de la marchandise qu'il lui a vendue. Donc en fait, la dette, à la base, elle était que de 10 000 euros. Et là, elle est de 20 000 euros. Vous voyez? Donc, il a fait de son prêt, il en a fait un commerce en gros. En gros, il en a fait un commerce. Il est en train de gagner de l'argent sur les dettes des gens. Et c'est ce que font aujourd'hui les banques. C'est ce que font aujourd'hui les banques qui pratiquent les intérêts usuraires. Ils font du commerce ils font des intérêts, ils créent des intérêts, ils gagnent de l'argent sur la pauvreté des gens. Sur la pauvreté des gens. Hein, et on voit que pourquoi les gens sont endettés et n'arrivent pas à s'en sortir à cause de ces intérêts. Wallahu al-musta'an. Tayyib. مع أن الله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. Alors qu'Allah جل وعلا, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la dette? Il dit, et si la personne qui est endettée, elle est dans la gêne, elle est dans la difficulté, alors on doit lui laisser un délai. إلى ميسرة. Jusqu'à ce qu'il lui est facile de te rembourser. Donc tu n'as pas le droit, hein, même si la personne te doit de l'argent et qu'elle devait te rembourser à telle date, mais si à telle date elle te dit mais j'ai pas l'argent, tu dois lui laisser un délai jusqu'à ce qu'elle puisse te rembourser. Allah Jalla wa'ala, il t'ordonne cela. Alors que tu lui dises, eh ben je te vends une marchandise à temps pour que tu me rembourses, mais du coup elle va être encore plus endettée. Au final, elle sera encore plus endettée à cause de ça. Parce que elle t'aura certes remboursé ton argent, mais elle te devra encore d'autres sommes, et ça va s'accumuler et ainsi de suite. A'oudou billah. Hada la yajouz. Na'am. Thumma yaqoul aw at-tahayyul 'ala ar-riba biqard bi an yuqridahu wa yashtaritu al-intifa'a bi shay'in min malihi aw i'ta'ihi 'an dhalika 'iwadan fa kullu qardin jarra naf'an fa huwa ربا. قال الشيخ فتحيل على الربا بقرض حرام لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا قال كل قرض جر منفعة كل قرض جر منفعة فهو ربا. أخرجه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده كما في زوائد الهيثمي وهو حديث متفق على ضعفه مرفوعا وقد جاء موقوفا عن فضالة ابن عبيد أخرجه البيحقي وإسناده حسن وقد نقل ابن المنذر في الإجماع إجماع العلماء على العمل بمقتضاه. Donc la troisième type de ruse interdite et qui comporte de l'intérêt, c'est l'intérêt concernant le prêt, le qard. Par exemple, le fait que la personne prête de l'argent ou un bien, mais elle émet une condition. Elle lui dit, par exemple, je te prête, je te prête 50 000 euros, mais tu me laisses ta voiture pendant une année. Pendant une année, j'ai le droit d'utiliser ta voiture comme je veux. Je te prête 10 000 euros, mais tu me laisses ta maison. Et tu me laisses ceci et cela. Ça, c'est de l'intérêt. Ou alors, tu me donnes carrément. Tu me donnes en échange un morceau de terre. Tu me donnes en échange ceci et cela. Ton troupeau, ou ta vache, ou ton chameau. Hein? Ça, c'est pas permis. D'accord? Donc, la règle, c'est que tout prêt derrière lequel il y a un intérêt, un profit pour celui qui prête, c'est interdit. Le musulman, il doit prêter sans qu'il n'émette quoi que ce soit qui va le profiter, ou à condition de choses qui lui seraient bénéfiques ou en échange de bénéfices ou de profits, comme font les banques aujourd'hui, encore une fois, qui vont prêter de l'argent à la personne, mais ils vont lui dire tu nous rends avec un intérêt de 10%, 5%, 20%. Donc toi tu as emprunté مثلاً 10 000 euros, d'accord? Donc 5% sur 10 000, ça fait combien? Ça fait 500, 5% sur 10 000 euros, ça fait 500 euros. Ça fait 500 euros. D'accord? Donc, au lieu, toi, tu as emprunté 10 000 euros et tu vas rendre 10 500 euros. Donc, la banque, elle va gagner 500 euros. Je dis n'importe quoi, hein. Je ne connais pas les pourcentages. À mon avis, elle gagne plus que ça. Voilà. Donc, ce pourcentage-là, cette augmentation, cette plus-value, elle est interdite. Même si ce ne serait-ce qu'un euro. Si tu dis à ton frère, je te prête 100 euros, tu me rends 101 euros, c'est des intérêts, c'est interdit. Est-ce que c'est compris? Ça, c'est l'intérêt par rapport au prêt. C'est compris ou pas? Non. Il y a un hadith rapporté par Ali qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout prêt qui engendre un intérêt, un profit, qui engendre un profit, c'est du riba. Tout prêt qui engendre un profit pour le débiteur, yani, c'est du riba. Donc le hadith il est rapporté par le Harith ibn Abi Usama dans son Musnad. Taïb. Mais le hadith, cette chaîne, elle est faible. Cette parole-là est faible concernant le fait qu'elle remonte jusqu'au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais on a une autre version qui s'arrête à Fudala ibn Ubayd. Et celle-là, par contre, elle est hassane, elle est bonne. Elle est bonne. Quoi qu'il en soit, les ulama sont unanimes. Il n'y a pas de divergence. Les ulama sont unanimes sur le fait que tout prêt qui engendre un bénéfice ou un profit pour le débiteur, c'est interdit. Le musulman, s'il prête quelque chose, s'il prête de l'argent, il doit le faire sans contrepartie et sans intérêt, sans profit derrière. Taïeb ? Non. ثم يقول ومن التحيل بيع حلي أو بيع حلي فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم فقوله بدرهم كذا في النسخ التي وقفت عليها ولعل المؤلف أراد بدرهمين نعم فهذه مسألة مد عجوة والعجوة تمر معروف بالمدينة وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء ولها ثلاث صور مذكورة في المقنع لابن قدامة والمنتهى والروض المربع وهو شرح المستقنع وغيرها من كتب المذهب أي المذهب الحنبلي وهي أولا أن يبيع شخص مد عجوة ودرهما بدرهمين أو أن يبيع مد عجوة ودرهما بمدي عجوة أو بمثله أن يبيع مد عجوة ودرهما بمد ودرهم وقاعدة هذه المسألة هي بيع مال ربوي بجنسه ومع الثمن أو المثمن أو كلاهما مال من غير جنسه. Donc autre, c'est la quatrième forme de ruse interdite dans les transactions. Vendre, par exemple, c'est un exemple, hein, vendre un bijou ou des bijoux en argent. Voyez. Accompagné de quelque chose d'autre. Donc tu vas vendre des bijoux en argent, mais avec, tu vas mettre quelque chose d'autre. Contre de l'argent. Contre de l'argent. Donc à la base, c'est permis de vendre de l'argent contre de l'argent. C'est permis. Quelque chose en argent contre quelque chose en argent. On avait dit les deux conditions. L'équivalence dans le poids, donc là par rapport à l'argent, l'équivalence dans le poids, et que ça soit fait, la transaction soit faite avant la séparation des contractants. Mais là, le problème, c'est que il va vendre, par exemple, des bijoux en argent, mais il va mettre quelque chose avec. Il va rajouter quelque chose avec contre de l'argent. Ou alors, autre exemple, le fait de vendre un mout, d'accord, de ajwa. Donc, ajwa, c'est les dates connues de Médine. Donc, une quantité, ici, un mout, c'est-à-dire l'équivalent du contenu de deux mains, homme, moyenne, de dates, ajwa. Et il va rajouter avec un dirham, d'accord. Donc, un dirham, c'est une valeur, hein, c'est une monnaie. Un dirham contre un dirham. Contre un dirham. D'accord. Donc, un dirham ou vendre des dates contre un dirham, il n'y a pas de mal. Comme si tu vends des dates contre 5 euros, il n'y a aucun mal. Mais là, il met, avec les dates, il met un dirham contre un dirham. Ça, c'est interdit. C'est comme si tu vends un dirham et avec les dates, tu mets 10 euros et tu vends ça contre 10 euros. C'est pas bon. Alors là, c'est une ruse. Et c'est interdit. D'accord? Donc, contre 2 dirhams, maintenant. Vous voyez, le fait de vendre un moud de ajwa et tu rajoutes un dirham contre 2 dirhams. Ça, c'est pas permis. C'est pas permis. Donc, cette mas'ala, qu'on appelle mas'ala moud de ajwa. Moud de ajwa. D'accord? Même si ça ne concerne pas que les dates de l'ajwa, mais dans le langage des ulama et des jurisconsultes, ils ont l'habitude de représenter cette mas'ala, cette question-là, par l'appellation mout ajwa. Mout ajwa. D'accord? Donc l'ajwa, comme on a dit, les dates connues de Médine. Et c'est une question qui est très connue chez les juristes et les jurisconsultes, et elle a trois représentations ou trois exemples qui sont mentionnés dans les livres de fiqh, notamment Al-Hanbali, l'Imam Ahmed, l'école de l'Imam Ahmed, Rahimahullah, tel que Al-Muqni', Al-Muntaha, Al-Rawdi, Al-Murbi'. Première représentation, première façon que l'individu vende un moud de ajwa avec un dirham contre deux dirhams. Ça, c'est interdit. Premier exemple. Vendre un moud de ajwa, de date. Mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être du blé et de l'orge. D'accord? Un moud de ajwa accompagné d'un dirham contre deux dirhams. Comme si je disais, un moud de date, si vous voulez, accompagné de 5 euros contre 10 euros. Hadala yajouz. C'est pas permis. Deuxième cas, que l'individu vende un moud de ajwa accompagné de 1 dirham contre 2 mouds de ajwa. C'est pas permis non plus. Donc, on va remplacer, hein, par les dirhams, par, si vous voulez, par les euros. Je vends un moud de date accompagné de 5 euros. Un moud de date accompagné de 5 euros contre 2 mouds de date. Ça, c'est pas permis non plus. Troisième cas, vendre un moud de ajwa avec un dirham contre un moud de ajwa avec un dirham. La même chose. Je te donne un moud de ajwa avec un dirham et toi tu me donnes un moud de ajwa avec un dirham. Ça, c'est interdit aussi. Parce que tu as mélangé. Tu as mélangé. Il se peut, il y a un risque ici, il y a un risque de différenciation dans la qualité des dates. Dans la qualité des dates. Donc, ce risque-là de différenciation fait que la transaction n'est pas valide, parce qu'il y a un risque ici. D'accord? Donc la règle dans cette mas'ala, cette question, eh bien, c'est quoi? C'est la vente d'un bien, donc c'est pas forcément des dates, ça peut être de l'or, du blé, ou n'importe quoi qui peut être le sujet aux intérêts, de vendre cet objet-là ou cette marchandise, hein, on va dire mathalan, du blé, vendre du blé contre du blé aussi, taillé, mais en rajoutant soit de la part de l'acheteur, soit du vendeur, ou soit des deux, ils vont rajouter quelque chose d'autre qui ne fait pas partie de la nature de l'objet premier qui est vendu et qui est acheté, c'est-à-dire le blé. Je te vends du blé contre du blé, mais je vais rajouter avec mon blé, je vais mettre quelque chose d'autre. Je vais mettre de l'orge ou je vais mettre des dattes. Ça, c'est interdit. C'est du blé contre du blé, des dattes contre des dattes. On rajoute rien avec. D'accord ? Na'am. والسبب في النهي عن بيع ما يدخل تحت هذه القاعدة هو خوف تحيل على الربا ولأنه لا يتحقق مع هذا البيع التماثل والجهر بالتماثل كالعلم بالتفاضل. Donc la cause de pour laquelle cela est interdit, eh bien parce que il y a un risque ici, il y a un risque de stratagème afin de profiter des riba, des intérêts. D'accord? Parce qu'il n'est pas possible de s'assurer de l'équivalence parfaite des deux marchandises. Donc le fait d'ignorer l'équivalence revient à ignorer, le fait d'ignorer l'équivalence revient à connaître la différence. C'est pareil. Que tu ignores l'équivalence, c'est comme si tu savais que les deux choses sont différentes. Et cela, c'est pas permis. Il faut être sûr de l'équivalence des deux marchandises ou des deux choses qui sont échangées. Vous voyez ? ودل على تحريم بيع ما جرى على هذه القاعدة حديث فضالة ابن عبيد قال رضي الله عنه اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل أخرجه مسلم فنهاه صلى الله عليه وسلم عن بيع القلادة التي بها خرز بالدنانير لأن القلادة من ذهب ودنانير من ذهب ومع القلادة خرز فهو اشترى ذهبا وخرزا بالذهب وكذا في مسألة مد عجوة بثمنه أي بدرهم فلا يدخل معه درهم آخر فلا حاجة له إلا أن يكون حيلة للربا. Donc c'est quoi la preuve de cette interdiction? C'est l'interdiction de vendre hein, quelque chose qui sera donc concerné par les trois cas qu'on a évoqués tout à l'heure. D'accord ? Le hadith du compagnon Fadala ibn Ubayd. Fadala ibn Ubayd qui a dit j'ai acheté le jour de Khaybar, j'ai acheté un collier, Qilada, un collier à 12 dinars. Un collier à 12 dinars. D'accord ? Et sur ce collier-là, donc, il y avait. C'est un collier en or. D'accord ? Il faut savoir que les dinars, c'est de l'or. Hein? Dinar, c'est de l'or, dinar. D'accord ? Un dinar, c'est de l'or. Donc, il a échangé des 12 dinars contre un collier en or, mais sur lequel il y avait des kharaz, des perles. Il y avait des perles. Donc, ces perles-là ne sont pas en or. D'accord ? Puis, quand il a acheté, il les a séparés, il a séparé les perles de l'or. Et il a vu qu'au final, au total, en additionnant la valeur de l'or du collier et la valeur des perles, cela faisait plus que 12 dinars. Cela faisait plus que 12 dinars. Et donc il a mentionné cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, on ne vend pas tant que la chose n'est pas séparée. Tant que les choses ne sont pas séparées les unes des autres. D'accord? C'est-à-dire que il n'avait pas le droit d'acheter ce collier-là tant qu'il n'avait pas séparé le collier en or et les perles. Le collier en or des perles. D'accord? Et ainsi, il aurait pu donc acheter, donner ses dinars contre le collier en or, et puis s'il le veut, acheter les perles en donnant la valeur de ces perles par la suite, mais pas en même temps. Le vendeur n'a pas le droit d'échanger son collier avec les perles avec, car dans ce cas-là, il aura échangé de l'or contre de l'or, mais il aura rajouté avec son or des perles. Et c'est interdit comme on l'a vu tout à l'heure. Donc le hadith, il est clair, rapporté par Muslim. D'accord? Donc le prophète, il a interdit, sallallahu alayhi wa sallam, de vendre ce collier-là, sur lequel il y avait des perles contre de l'or. Pourquoi? Parce que le collier, lui, il est en or, certes. Le dinar, il est en or, comme on a dit, aussi. Il n'y a pas de problème jusque-là. Mais, il y avait des perles sur le collier en or. Et les perles ne sont pas en or. Donc, il aura du coup acheté de l'or avec des perles contre de l'or. Ça, c'est interdit. Et également, on l'a vu dans la mas'ala, dans la question concernant le moud de Ajwa, le moud de date Ajwa, contre sa valeur. C'est-à-dire, sa valeur, c'est quoi? Un dirham. Donc, imagine que un moud de Ajwa vaut un dirham. Donc, tu n'as pas le droit de rajouter, toi, dans ton dirham, un autre dirham. Pourquoi tu veux rajouter un dirham? Pourquoi faire? Donc, il n'y a pas besoin de cela, sauf si la personne, bien sûr, veut ruser. Elle veut ruser pour justement pouvoir consommer du riba. Wallahu al-musta'an. Tayyib. Hilatun ukhra. Su'ila an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an bay'i tamri bi rutab. Faqala ayanqusu idha jaff? قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وقال الترمذي حسن صحيح فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع رطب بالتمر لعدم التحقق من التساوي فرطب أثقل من التمر لأنه متشرب بالماء فإذا جف خف وزنه وخف وزنه فأخذ الفقهاء من هذا تحريم بيع كل رطب من الربوي عفوا أخذ الفقهاء من هذا تحريم بيع كل أو بيع كل رطب من الربوي بيابس منه كالعنب بالزبيب كبيع العنب بالزبيب والمشمش والتين لا 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 والتين الرطبي باليابس وهكذا طيب donc on est arrivé ici 1 2 3 4 5 la cinquième forme de ruse dans la transaction interdite. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné au sujet de la vente de dattes qu'on appelle tamr. Donc, tamr, c'est les dattes qu'on a l'habitude, nous, de manger, taïeb, des dattes, qu'on a tamr, contre des rotab. Rotab, c'est d'autres variétés de dattes qui sont des dattes humides. On peut dire des dattes humides. Taïeb, c'est une autre variété de dattes. C'est, en fait, c'est les dattes avant qu'elles sèchent, avant qu'elles deviennent sèches, comme les tamr qu'on mange, nous, les tamr, elles sont rotab. Donc, est-ce qu'on a le droit de vendre des tamres contre des rotabs? des dates sèches contre des dates humides. Taïeb, qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que lorsqu'elle sèche ces dates humides, lorsqu'elle sèche, est-ce qu'elle diminue, yani en poids? Est-ce qu'elle diminue en poids lorsqu'elle sèche? Et là, ils l'ont dit, oui, elle diminue en poids. Donc, il est interdit cela. Le hadith est rapporté par Abu Dawoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ahmed. Et c'est un hadith qui est hassan sahih, authentique. Donc, le prophète, il a interdit, sallallahu alayhi wa sallam, de vendre des rotab, des dates, yani, on va dire, humides, contre des tamres. Parce que on ne peut pas être sûr de leur équivalence, c'est impossible. S'assurer de l'équivalence en poids est impossible. On peut pas dire que ces rotabs, quand elles vont devenir des tamres, elles seront pareilles au niveau du poids. C'est impossible à deviner et à prévoir. Donc un rotab sont plus lourdes que les tamres. Si tu prends 10 tamres et 10 rotabs, les 10 rotabs seront plus lourdes que les tamres. C'est obligé. Pourquoi? Parce qu'elles sont remplies d'eau. Elles sont remplies d'eau. Mais quand elles vont sécher, leur poids va diminuer, forcément. D'accord? Donc c'est pour cela que le fuqaha, ils ont pris de ce hadith et ils ont déduit qu'il est interdit de vendre tout ce qui est humide parmi les marchandises qui peuvent être sujettes à l'intérêt, d'accord? Par la même chose, mais sec. Vendre des raisins contre des raisins secs. Hein? Toi, tu vends du raisin qui est du raisin frais, yani, contre du raisin sec. C'est interdit. Vendre le mishmish, les abricots frais contre des abricots secs. La tine, c'est quoi? Figue séchée et figue fraîche, etc. Voyez? Adala yajuz. صورة أخرى ونهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع صبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر رواه مسلم أخرجه مسلم من حديث جابر والصبرة هي الكومة المجموعة من الطعام لا يدرى ما مقدارها بالكيل فيحرم بيع صبرة من الطعام بمثله مما يعرف كيله لعدم تحقق التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل والحديث جاء في التمر فيقاس عليه غيره من الأموال الربوية كالبر والشعير والأرز وغيرها. On arrive ici à la sixième ruse interdite dans la transaction. Il a interdit le prophète صلى الله عليه وسلم de vendre une soubra. Une soubra, c'est un amas ou un tas ou un paquet de dates, par exemple, hein, c'est pas que les dates, mais un exemple, de dates dont on ne connaît pas la mesure. Donc toi, quand tu vois un tas de dates, d'accord, tu ne peux pas deviner à l'œil nu, tu vas faire une estimation, certes, mais tu n'auras pas une mesure exacte. Est-ce que ça fait un sa et demi, deux sa, 3 ça et 1 mout, tu n'en sais rien. Tu n'as pas le droit de vendre ce tas de dates-là, dont tu ne connais pas la mesure exacte, contre d'autres dates dont tu connais la mesure exacte. Tu dis à la personne, moi je te vends 5 kilos de dates contre ce tas de dates. Mais est-ce que tu ne sais pas combien il fait ce tas de dates? Est-ce qu'il fait 5 kilos, il peut faire 10 kilos, tu n'en sais rien. Ou 6 kilos, non. Oui, sixième. Non. Donc le hadith rapporté par Muslim. Tahir, selon Jabir ibn Abdullah. Donc soubra, on a dit, c'est un tas de, pas forcément de dates, hein, ça peut être autre chose, parmi la nourriture, à propos de la duquel tu ne connais pas la mesure. Hein? Donc il sera donc yani interdit de vendre ce tas de nourriture contre la même nourriture, yani, par exemple des dates par des dates, même si l'acheteur ou le vendeur connaît sa quantité, mais l'autre ne la connaît pas. Donc du coup, il sera impossible de s'assurer de l'équivalence des deux quantités. Et on a dit que ignorer l'équivalence revient à connaître la différence. C'est pareil. Donc le hadith, ici, il est rapporté par rapport au tamr. Mais bien sûr, on va faire l'analogie, la comparaison avec les autres marchandises qui peuvent être sujettes à l'intérêt, telles que le blé, l'orge, le riz, etc., etc. Non. وأما بيع ما في ذمة أولا فإن كان على من هو عليه جاز وذلك بشرط قبض عوضه قبل تفرقه لقوله عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث ابن عمر قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا. Comment parler maintenant le fait de vendre une dette? Vendre une dette. D'accord? Vendre un prêt. Donc, premier cas, si la personne vend ce prêt, il vend ce qu'il a prêté à son débiteur, à celui qui est endetté. D'accord? Il lui a prêté un bien. D'accord? Est-ce qu'il a le droit de vendre ce bien à celui à qui il a prêté? Il a prêté une voiture. Est-ce qu'il a le droit de lui vendre cette voiture-là à la personne? C'est permis. À condition que la personne vienne lors du contrat de vente et lui donne l'argent, par exemple. Hein? Lors de la même assise et qu'ils se séparent après avoir conclu la vente. Et pas avant. La preuve, parce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ce que tu, à ce que tu prennes en échange la valeur de ce que tu as prêté, que tu vendes ce que tu as prêté au prix actuel. Au prix du jour. Au prix du jour. Il y a du marché. Tant que vous ne vous êtes pas séparés avant que la vente ou la transaction n'ait été effectuée. Tu n'as pas le droit de lui dire, par exemple, c'est bon, je te vends ce que je t'ai prêté, d'accord, et tu me paieras plus tard. Là, il doit te payer le jour même, avant que vous vous sépariez. Et au prix du marché. D'accord? Donc, le hadith rapporté par les cinq. Quand on dit les cinq, on parle de Ashab al-Sunan avec l'imam Ahmed. C'est-à-dire Abu Daoud, Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah, plus l'imam Ahmed. Ça fait cinq. Donc, le hadith rapporté par Ibn Omar. Mais l'imam Tirmidhi, il a dit que ce hadith, il ne remonte pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne remonte pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on a une autre chaîne de narration selon Saïd ibn Jubayr, selon Ibn Omar, qui est authentique, mais qui s'arrête à Ibn Omar. Qui s'arrête à Ibn Omar. Vous voyez? Dans tous les cas, le sens, il est bon. Le sens, il est bon, alhamdulillah, azza wa jal. Thumma yaqula al-mu'allifu rahimahullah, wa in kana ala ghayrihi, la yasihu li'annahu gharar. Deuxième cas, qui est interdit, mais si il vend ce qu'il a prêté, mais à quelqu'un d'autre, il vend, il a prêté à 1000 euros, D'accord? Et il veut vendre, entre guillemets, il veut utiliser ces 1000 euros-là pour acheter quelque chose à quelqu'un d'autre. Mais pas à la personne à qui il a prêté l'argent, à quelqu'un d'autre. Il te dit, voilà, je vais t'acheter la chose que tu vends, je te l'achète 1000 euros, mais mes 1000 euros, ils sont chez Intel. Tu vas aller chercher chez Intel les 1000 euros. Mais c'est un exemple. Là, c'est pas valide. Parce qu'ici, il y a une tromperie, il y a un risque. Il y a un risque. قال الشيخ ما في الذمة إما أن يكون سلما أو قرضا أو بيعا مؤجلا وقد يكون بيعا حالا لكنه غير مقبوض ولا معين وبيع ما في الذمة له حالتان الحالة الأولى أن يبيعه على من هو ذمته وهذا جائز بشرط قبض عوضه قبل التفرق حتى لا يكون باع دينا بدين فإذا باعه بعيرا بعشرة دنانير وليس معه إلا دراهم فيقول له المشتري أشتري منك الدنانير التي في ذمتي بدراهم نقدا فلا يصح هذا العقد إلا بشرط أن تكون بسعر يومها وألا يتفرق المتعاقدان وبينهما شيء لم يقبض فإذا كان دينار يصرف باثني عشر درهما فإنه ينقده 120 درهما قيمة العشرة الدنانير ومثله إذا كان له في ذمة شخص عشر شياه أو 100 صاع من البر فيجوز أن يبيع عليه هذه الشياه أو البر بشيء آخر لكن لا بد من قبض ثمنها قبل تفرق بينهما. طيب. Donc, quand on dit vendre ou vendre une dette, ou vendre un prêt, tout simplement. Ça peut être donc une marchandise que tu as vendue, mais que tu n'as pas encore livrée. D'accord ? Toi, tu dois à la personne une marchandise. Tu as déjà pris l'argent et tu dois lui livrer la marchandise, mais tu ne l'as pas fait encore. Ou tu as prêté de l'argent. Ou tu as prêté quelque chose, pas forcément de l'argent. Ou tu as vendu quelque chose et on te doit des sous. Tu ne les as pas rendus encore. Toi, tu l'as vendu l'objet, mais on ne t'a pas encore payé. D'accord ? Donc même si ça peut être aussi une vente qui a été effectuée, mais année qui n'a pas encore, tu n'as pas encore récupéré l'argent ou la personne n'a pas encore récupéré sa marchandise. Quoi qu'il en soit. Ici, le fait de vendre ce genre de choses, il y a deux situations. La première, que tu vendes cette chose-là à celui qui te doit de l'argent, à celui à qui tu as prêté quelque chose. Eh bien, je vais lui vendre, mais à lui, pas à quelqu'un d'autre, à lui. Ça, c'est permis. Comme on a dit, à condition que la transaction se fasse avant la séparation des deux contractants. Afin que la personne ne vende pas une dette contre une autre dette. Parce que si tu viens, tu lui dis, bon, c'est bon, je te vends ma dette. Ou je te vends ce que je t'ai prêté. D'accord ? Je te vends ce que je t'ai prêté. Taillé. Comme ça, tu ne devras plus me rendre ce que je t'ai prêté. Mais il faut que la transaction se fasse au même moment, ce jour-là. Parce que sinon, c'est comme s'il lui vendait une dette contre une autre dette. Il sera encore endetté, la personne. Ça sert à quoi ? D'accord ? Donc, par exemple, s'il lui vend, il lui a vendu, allez, un chameau. Il lui a vendu un chameau contre 10 dinars. Un chameau contre 10 dinars. D'accord ? Mais l'acheteur, il n'a pas de dinars sur lui. Il n'a que des dirhams. Dinar, c'est de l'or. Dirham, c'est de l'argent. Il n'a que des dirhams. L'acheteur, il lui dit, je t'achète les dinars que je te dois. Donc, lui, il va lui devoir les 10 dinars. D'accord? Mais il n'a pas de dinars. Il va lui dire, je vais t'acheter ces 10 dinars contre des darahim. En argent, des dirhams. En argent. Ça, c'est pas permis. Sauf s'il lui achète au prix du jour. Au cours du marché, yani, du jour. Et qu'il ne se sépare pas tant qu'ils n'ont pas chacun donné ce qu'il doit à l'autre, avant qu'ils ne se séparent. D'accord? Donc si par exemple un dinar équivaut à 12 dirhams, un dinar en or équivaut à 12 dirhams en argent, donc il va lui donner l'équivalent de ces 12 dinars en argent. Donc on avait dit qu'il lui devait combien? 10 dinars. 10 dinars, ça fait combien de dirhams? 120. Ça fait, il doit lui donner 120 dirhams. La même somme, la même équivalence que 10 dinars. Donc 10 dinars équivaut à 120 dirhams. D'accord? Exemple, lorsque la personne a prêté 10 moutons, où on lui doit 100 sa' de blé. On lui doit un mouton, où on lui doit 100 sa' de blé. Dans ce cas-là, il est permis de lui vendre ses 10 moutons. Il lui a prêté 10 moutons. Il lui doit 10 moutons. Il lui dit, c'est bon, je te les vends, les 10 moutons. Ou il lui doit un sa' de blé. Ou 100, pardon. 100 sa' de blé. Il lui dit, je te vends les 100 sa' de blé. Contre autre chose. D'accord? Mais, il est obligatoire que la transaction se fasse et se termine avant la séparation. Avant la séparation. Donc il lui vend par exemple les 10 moutons contre مثلاً, 2000 euros. Il lui doit 10 moutons. Il lui dit je te vends les 10 moutons contre 10 000 euros. Il faut que les 10 000 euros lui soient dans son compte ou dans sa main ce jour-là, lors de la transaction. Je te vends 100 sa' de blé contre 3000 euros, je dis n'importe quoi. Il faut que les 3000 euros, il les prenne, hein, il les ait sur lui avant la séparation. وهكذا. الحالة الثانية بيع الدين على طرف ثالث فإنه لا يصح لأنه غرر فإذا كان لشخص على آخر مبلغ 1000 ريال مثلا فلا يجوز للدائن أن يبيع الدين هنا على طرف ثالث ولو كان بقيمته لأنه لا يدري هل هي ثابتة أو لا وهل سيؤديها أم لا فهذا غرر ويفضي إلى النزاع. Et enfin le deuxième cas, le fait de vendre une dette mais à une tierce personne, à une troisième personne. Vendre la dette à une troisième personne, ça c'est pas valide. Parce qu'il y a un gharar, il y a une tromperie, un risque un risque que la personne ne puisse pas récupérer cette dette. D'accord? Donc si la personne, par exemple, on lui doit 1000 riels ou 1000 euros. On lui doit, par exemple, 1000 euros. Il n'est pas permis au créancier de vendre ces 1000 euros-là, hein, à une troisième personne. À une troisième personne. Même si c'est un objet qui vaut 1000 euros. Taillé. Pourquoi? Parce que la troisième personne ne sait pas si déjà le prix de sa marchandise, il va rester à la valeur des 1000 euros. Il se peut que dans 10 jours, sa marchandise soit plus chère. Et donc il aura perdu de l'argent, le vendeur. Et il ne sait pas non plus si l'endetté pourra lui rendre. Il se peut que le jour où il va yani, récupérer cet argent-là, la personne n'a pas l'argent. Ou ne peut pas lui rendre l'argent. Ou elle est partie, elle a disparu. Allahu alam. Donc il y a un risque ici de gharar. Et ce n'est pas permis. Et cela donc est source de conflits hein, entre les musulmans. Wallahu al-musta'an. Alhamdulillah, naktafi bi hadha al-qadr inshallah ta'ala. Wa sananteqil al-usbu al-qadim inshallah ila bab bay' al-usul wal-thimar. Wa barakallahu fikum wal 'ilmu 'inda Allah wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali ashabihi ajma'in wa sallama taslima wassalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.